6h01 minute, mardi 19 janvier. Bonne journée, bienvenue au 98.5. Alors, ce matin, c'est un matin de janvier. Beaucoup plus froid qu'hier. Officiellement, à l'aéroport Montréal-Trudeau, c'est moins 13 degrés. On prévoit une alternance de soleil et de nuages ce matin. Au cours de l'après-midi, ça se couvre et on aura de la faible neige qui va se poursuivre en soirée et même durant la nuit, mais c'est une petite accumulation, environ 2 cm, donc le maximum moins 7, le minimum la nuit prochaine, moins 9 degrés. Pour demain, mercredi, encore là, nuageux, faible risque d'averse de neige, avec un maximum qui ne bouge pas autour de moins 7 degrés. Et de toute façon, pour le reste de la semaine, là, on prévoit du temps nuageux, du temps couvert, avant le retour du soleil pour la fin de semaine. Mais mercredi, c'est moins d'un centimètre qui est prévu. Jeudi, entre 2 et 4 centimètres. Et pour vendredi, et même samedi, là, une trace de neige. Alors, il n'y a pas vraiment d'accumulation, ce qui va permettre aux opérations de déneigement de se poursuivre. C'est à peu près 50 % là, de la cible qui est atteinte. Dossier COVID ce matin. Bon, d'abord, il y aura point de presse cet après-midi. On regarde les chiffres qui semblent être encourageants. La crainte des autorités, c'est que devant, disons, une amélioration peut-être perceptible en termes de cas, c'est que les gens lèvent le pied là, et qu'on soit moins vigilant. La pression demeure encore extrêmement forte sur le réseau de la santé, les cas aux soins intensifs. Et si on résume, là, les 3-4 prochaines semaines vont quand même être déterminantes, là, dans le sens où on a procédé à l'ouverture des écoles primaires la semaine dernière. On sait qu'il y aura des cas de COVID. Les écoles secondaires hier, on sait qu'il y aura des cas de COVID. Et on sait aussi que la contagion est dans l'ensemble de la communauté, que ce soit dans, par exemple, le milieu de travail, dans le réseau de la santé, que ce soit dans les écoles. Bref, la partie est loin d'être gagnée dans ce sens-là. Alors ça, c'est le premier constat qu'on peut faire. Malheureusement, l'opération vaccination est au ralenti. Je regardais ce matin les relevés dans le Globe and Mail pour ce qui est de l'ensemble du Canada. Et c'est clair que Pfizer n'est pas capable de livrer ce qu'on avait promis au début, là. On sait qu'il y a un délai d'à peu près une semaine en Europe, mais que le Canada semble devoir patienter encore plus longtemps. Et il va falloir attendre probablement à la fin janvier pour qu'on puisse retrouver peut-être des quantités. Puis même, on parle de devoir attendre jusqu'en février pour reprendre un peu la cadence de vaccination. Alors là aussi, ça a un impact quand même important. Vous avez vu, il y a un sondage ce matin, en gros, 3/4 des Québécois qui se disent favorables au couvre-feu, même si les gens sont pas convaincus que c'est efficace, là, que c'est ça qui va véritablement changer les résultats. Alors, pourquoi il y a un couvre-feu? Ben c'est pour faire en sorte que les gens restent chez eux, puis qu'il n'y ait pas de party. Puis on a vu, là, encore dans les hôtels, j'ai vu en fin de semaine à Lévis, malgré le couvre-feu, donc il y a des regroupements. Puis on le sait que parmi les foyers de contagion, ben tous ces parties, tous ces regroupements, ça y contribue quand même de façon importante. Pour ce qui est de la vaccination, il y a quand même quelques nouvelles ce matin. D'abord, Radio-Canada nous dit qu'environ 10 % des personnes infectées par la COVID en ressentent des symptômes à long terme. C'est un peu ce que je vous disais la semaine dernière, là, à partir de témoignages d'auditeurs qui ont eu la COVID. C'est-à-dire qu'une fois que tu es guéri, entre guillemets, que tu en es sorti, et là, je parle pas des cas où on a été intubé, là, je vous parle vraiment des gens qui l'ont eu solide. Bien, pendant longtemps, on se rend compte qu'ils ont des effets secondaires qui durent même des mois. Et les médecins, face à un nouveau phénomène comme celui-là, ne savent pas nécessairement comment le gérer. Alors, officiellement, quand vous regardez ce que la science nous enseigne, on est considéré comme rétabli de 10 ou 14 jours après les premiers symptômes, surtout quand les symptômes sont sévères. Or, les gens ressentent différents problèmes et ça a été mesuré à Edmonton, ça a été mesuré également à Sherbrooke, Québec-Montréal. Et donc, des gens qui, par exemple, avaient comme une fatigue prolongée, avaient des douleurs qui étaient également quand même importantes. Et puis, Entre-temps, ce qu'on découvre aussi, ça c'est intéressant, c'est la revue Nature qui a publié ça hier, c'est repris entre autres dans Le Devoir ce matin. Les personnes qui ont développé la COVID, donc qui en principe ont eu les anticorps pour se défendre, ont une immunité qui persiste pendant au moins 6 mois, voire 8 mois après l'infection. Ce qui veut dire que même si, on le constate, là, après l'infection, il y a comme une baisse, il semble que le corps humain, je prends une image, là, garde en mémoire le protocole de défense. Et si jamais la COVID revient, le virus revient, bien, capable de réactiver, ce qui est en soi une bonne nouvelle et ce qui laisse présager également de bons résultats pour les vaccins. Mais ce sont des résultats qui demeurent préliminaires. C'est un nouveau vaccin, puis on apprend sur le tas. C'est comme le débat concernant le report de la deuxième dose. Et le Dr Weiss disait hier, on peut peut-être le faire, mais il ne faut pas non plus étirer trop ça dans le temps, parce que là, on va devoir payer là, en termes d'immunité. Et je voudrais partager avec vous ce matin certains courriels des auditeurs en marge de tout ce dossier-là de la COVID. Parce qu'on le sait, là, depuis le retour, après le temps des fêtes, il y a des constats qui ont été faits. Bon, il y a tout le dossier des gens qui voyagent. Il y a bien des Québécois, bien des Canadiens qui ne comprennent pas pourquoi la frontière n'est pas davantage fermée. Avec les cas de COVID, des faux tests qui sont vendus dans certains pays, des gens qui ne respectent pas la quarantaine. Je disais ce matin dans la presse là, qu'on fait appel à des agences privées pour possiblement là, améliorer les vérifications. T'as beau téléphoner, est-ce que c'est super efficace? On commence à avoir des doutes. Et là, il y aurait des vérifications peut-être un peu plus serrées dans des grands centres. Alors, les gens qui reviennent de voyage. L'autre chose, qu'il y ait des vols pour ce qu'on appelle des besoins essentiels, c'est une chose. Mais quand je vous dis faire un peu le bilan avec vous des courriels, j'ai un employé d'une compagnie aérienne, une grosse compagnie aérienne, qui m'explique le nombre de vols qu'il y a vers Paris actuellement. Là, puis on ne nous fera pas croire que ce sont tous des vols essentiels. Alors, ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat qu'on peut faire, là, c'est que l'absence de personnel dans le réseau, qui était vrai au printemps, qui est encore vrai aujourd'hui, c'est moins important, mais quand même, c'est là, fait en sorte qu'il y a des gens qui travaillent d'une zone à l'autre. Ça, malheureusement, ça existe encore dans le réseau. Des gens qui se promènent, là, zone froide, zone rouge, qui voyagent encore, c'est une réalité. Peut-être moins forte. Peut-être que les cas arrivent à se stabiliser dans les CHSLD. On n'est pas dans une situation aussi grave qu'au printemps. Mais il y a quand même pas mal de morts chaque jour. Je ne sais pas si vous trouvez, là, on a beau me dire, ben ça, ce sont des morts d'il y a 2 semaines, ça, c'est des morts d'il y a 4 jours. Il faut que tu fasses le total de ça. On va taper le 10 000 morts au Québec, là. Alors, c'est quand même énorme. Dans les autres commentaires, la bureaucratie en période de crise m'amène à vous parler de 2 cas ce matin. Un cas qu'on va détailler un peu plus tard dans l'émission, c'est le cas de Sophie. Sophie, là, elle a 31 ans. Elle est préposée aux bénéficiaires au Québec. On s'entend, là, on a besoin de préposer aux bénéficiaires. Et là, elle ne peut légalement pratiquer parce qu'il y a des délais administratifs pour obtenir son certificat de sélection au Québec. Alors, elle est venue au Québec, elle s'est établie ici, elle est d'origine française, et elle a commencé donc à travailler comme préposée à différents endroits, notamment le CHUP. Là, je ne veux pas identifier l'endroit où elle travaille, là, pour ne pas nuire à son dossier, mais elle a dit, moi, je suis prêt à travailler. Là, je ne peux pas y aller, là, puis je vais perdre mon poste. Or, son employeur dit on a besoin d'elle. Il y a eu des démarches faites auprès de la députée de Québec solidaire dans ce dossier-là, Ruba Gazal, et ça n'a rien donné jusqu'à maintenant. Puis là, on dit, ben attendez, ça va prendre des mois. Je peux vous raconter le cas d'un autre employé du réseau de la santé qui, lui aussi, en arrache, qui veut procéder à la réunification des familles. Puis là, on est dans les délais encore de plusieurs mois. Puis entre-temps, ben, travaille sur les services essentiels dans le réseau de la santé. Tu sais, y aurait-tu moyen d'alléger un peu l'appareil bureaucratique? Je vous donne un autre exemple, toujours dans mes courriels. Tu sais, on rit bien là, du fax dans le réseau de la santé. Quand je vous dis que c'est archaïque, quelqu'un qui me raconte pour les appels d'offres dans les 6, c'est tellement compliqué, là. T'as pas l'impression qu'on est dans une période, disons, où le temps presse. Et là, on me donne des exemples assez incroyables où le CIS ou le CIUS là, exige des documents papier. Tu leur dis, écoutez, on va vous envoyer un document par le web, des signatures électroniques des dirigeants. Non! On veut des signatures manuscrites. Il faut procéder au montage des documents. Il faut aller porter ça sur place. Le papier est l'élément fort de la bureaucratie. Ça, puis le fax du réseau de la santé. Tu sais, on nous dit qu'il faut se réinventer. Puis là, c'est le même gouvernement qui te dit, restez donc en télétravail le plus possible. Puis ces entités, ces créatures, poussent en direction, si vous voulez, des vieilles méthodes. C'est-à-dire le papier puis le fax. Pas capable d'avoir d'indicateurs, pas capable. Tu sais, je le sais, il y a bien des gens, là, je vais finir là-dessus, qui me disent, comment ça se fait? Il n'y a pas 100 millions de patients là, dans les hôpitaux. On a un réseau fragile. Il y a des patients, des non-COVID qui sont là pour autre chose. Mais c'est sûr qu'on a un système qui est vulnérable. Encore aujourd'hui. Puis dans la presse ce matin, bien là, on nous sort le protocole où on devra trier au besoin. On n'en est pas là. On n'espère pas se rendre là. On espère qu'on va déployer toutes sortes de stratagèmes, de mesures pour ne pas avoir à faire des choix à partir de critères. Mais sérieusement, quand vous lisez les témoignages, c'est un médecin du CHUM, un autre du CUSUM, la personne qui va avoir à trancher qui a les soins puis qui n'a pas les soins. Mais ça donne un peu froid dans le dos. Alors, demain aux États-Unis, c'est l'assermentation de Joe Biden. Quelques heures avant, le président Trump va quitter. Il ne sera pas à la cérémonie, ça c'est clair. C'est le vice-président Mike Pence qui sera là pour l'assermentation. Alors lui, il s'en va à la base militaire Andrews et va retourner, on présume, en Floride. Même, il va organiser, disons, une cérémonie pour marquer son départ. Il y a quand même beaucoup de réticence. Il y a une question également d'accès. Bref, on ne sait pas sur quel ton il va partir et comment ça va se faire dans le détail. Entre-temps, c'est une ville fortifiée, c'est une ville barricadée, Washington. Le déploiement, quand même, quand vous regardez le total de forces policières, de soldats de la garde nationale, le FBI, donc les services secrets, des dizaines de milliers de représentants des forces de l'ordre qui sont déployés. Et je regardais les plans hier, les images, avec les barricades, le barbelé pour empêcher les gens d'approcher, c'est comme surréaliste. Là. Quand vous dites qu'il y a 4 ans, c'était Trump qui était assermenté en plein air devant une foule. Il y a Obama qui l'a été. C'est toujours un grand moment dans la démocratie américaine. Là, il n'y a pas de défilé, il n'y a rien. Les gens sont triés sur le volet, ils sont fouillés. Et on craint toujours, évidemment, qu'il y ait des manifestations de gens d'extrême droite. Et ce qui préoccupe beaucoup, c'est le fait que dans ces groupes, dans ces milices, on retrouve d'anciens soldats. Des gens qui ont fait la guerre en Irak ou des gens qui ont été membres de forces de réserve. Il y en a qui ont été identifiés à l'intérieur de ceux qui ont foncé, qui ont attaqué le Capitole. Et non seulement on est en train de surveiller ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour débusquer des complots, des attaques potentielles, non seulement sur le Capitole, mais sur d'autres villes aux États-Unis, mais on se demande est-ce qu'il pourrait y avoir un coup de l'intérieur. Tu sais, si vous avez 25 000 soldats sur place, qui vous dit qu'il n'y en a pas parmi eux qui sont des complotistes ou qui adhèrent aux thèses de Donald Trump et qui, dans le processus de sécurité, pourraient ouvrir une brèche? Alors, donc, on est en train de redoubler d'efforts. Pendant ce temps-là, M. Trump prépare des pardons à répétition. On pense qu'une centaine de personnes pourraient bénéficier de ce pardon. Il y en a eu déjà, là, de ses amis, M. Flynn, M. Roger Stone, des organisateurs. Alors, il y a deux questions, trois questions, dans le fond. Qui va bénéficier du pardon, outre ses amis? Deuxième question, est-ce qu'il peut donner le pardon à des membres de sa famille qui sont accusés de rien? Là, il a donné le pardon à son, en fait, au beau-père de sa fille. M. Kouchner, qui avait été pris dans une histoire de fraude, de corruption, fraude fiscale, entre autres, là, au New Jersey. Alors, on atteint, là, le pardon, l'absolution, merci, bonsoir. Donc, est-ce qu'il pourrait le faire sans qu'il y ait d'accusation? Et ultimement, est-ce qu'il pourrait s'auto-pardonner? Ça serait quand même assez fort, là. J'entendais des juristes dire non. Et d'autres juristes, notamment un hier, qui a écrit deux livres sur les procédures d'impeachment, qui a dit, vous savez, Trump, là, il n'est pas sorti de l'auberge. Au-delà du procès d'impeachment au Sénat, il pourrait faire face à des accusations aux criminels suite aux événements du Capitole. On revient ici rapidement. Bon, nous avons un premier joueur, outre Valérie Plante, qui se présente à la mairie de Montréal, Félix-Antoine Jolicoeur. Sérieusement, personne ne sait c'est qui, là. Il a ouvert, en fait, il a publié quelques lettres ouvertes dans la presse. On nous le présente comme un entrepreneur, comme quelqu'un qui a travaillé en politique avec Mme Marois, quelqu'un qui est préoccupé par les questions d'urbanisme à la ville. Et lui, il dit, ben, l'administration Plante est dans la mauvaise direction, les cônes oranges. Bon, on ne sait pas c'est qui. Alors, quand on ne te connaît pas, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de partisans, mais c'est le premier candidat déclaré. La grande question, c'est que fera Denis Coderre, qui publie un livre au mois de mars sur sa vision de la ville. Un Denis Coderre transformé, qui dit avoir appris de la dernière campagne électorale puis de sa défaite. Est-ce qu'il va y aller? C'est important, le jeu, là, parce que vous avez Mme Plante, puis là, le Journal de Montréal répète ce matin ce qu'on a vu, là, que il y a bien des gens dans l'entourage qui dénoncent l'autoritarisme. On a parlé à répétition, il y a des démissions, il y a des gens qui sont poussés vers la porte. On dit que le Politburo contrôle tout à l'intérieur de Projet Montréal et que ça irrite beaucoup de gens. Mais c'est quand même une machine, Projet Montréal. Moins de membres, mais des militants, des gens convaincus, puis des arrondissements où ils sont quand même bien implantés. Alors, comme me disait mon ami Lapierre, quand tu te présentes à une élection municipale, ça te prend toute une organisation pour faire sortir le vote. C'est bien beau dire « je me présente », là, mais tu te présentes avec qui? C'est qui? Les soldats, les piliers de ton équipe. Et si tu présentes contre Valérie Plante un candidat, le vote de contestation va aller vers lui. Là, est-ce qu'on va diviser le vote contre Mme Plante, puis elle va passer? C'est le genre de calcul. On connaît la vieille recette en politique. Quand il y a un adversaire contre toi, arrange-toi pour en présenter un, là, même s'il est bidon. Gilles Vaillancourt était passé maître dans le domaine, à Laval. Tu sais, tu présentes des poteaux pour diviser le vote d'opposition, même si dans son cas, la monarchie était absolue à Laval, il n'y avait pas vraiment de problème. Mais c'est comme ça un peu les games politiques. Alors, on aura l'occasion d'y revenir ce matin. Il y a évidemment le dossier, c'est d'une tristesse, là, de cet homme qui a été retrouvé le corps gelé, inerte, dans une toilette entre angle de l'avenue du Parc et Milton. Et c'est un Inou qui vivait quand même depuis un bout de temps dans ce coin-là. Le refuge était fermé. Il y avait un mandat contre lui, donc il avait peur que les autorités l'appréhendent. Et là, c'est toute la question de l'exemption qui est demandée pour les personnes itinérantes. On comprend que les itinérants ne paieront pas un ticket en violation du couvre-feu de 1 500 $, puis on comprend aussi que les refuges débordent, puis qu'on ne peut pas accueillir tout le monde. Puis on est en plein mois de janvier. Et je vous le dis, c'est un coin, je le mentionnais tantôt, que je connais assez bien, parce que je passe là tous les jours, puis c'est vrai que tous les jours, il y a un attroupement, puis c'est vrai qu'ils ne respectent pas les règles, puis c'est vrai qu'ils sont collés les uns sur les autres, puis qu'ils se font des câlins, puis qu'ils dansent dans le milieu de la rue. Mais là, lui, coincé, là, il voit que le refuge est fermé, que ses amis ne sont pas là, puis il va se cacher pour ne pas être pris pendant la période de couvre-feu. Rapidement, dans les autres nouvelles, ben, Couche-Tard, qui a de grandes ambitions, qui se voit, là, on sait que ça n'a pas marché avec Carrefour, du moins pour l'instant. La France, qui a fait preuve, disons, de nationalisme économique en disant « il n'est pas question que Carrefour, ce géant de la distribution alimentaire, passe entre les mains du Canadien Couche-Tard ». Et Alain Bouchard, puis le président actuel, Bouchard, c'est le président du Conseil, dit qu'ils sont en réflexion depuis 3 ans pour, justement, faire grossir encore l'entreprise et devenir, comme dit la presse, une espèce d'Amazon ou de Walmart, alors Couche-Tard qui n'a pas dit son dernier mot. Et également, un mot sur cette histoire du procès de Jacinthe René. qui se défend. Elle dit qu'on la fait passer pour une charlatan. Elle dit que je n'ai jamais commis d'erreur et les propriétaires de la maison Jacinthe, c'est un procès pour pratique illégale de la médecine. Le naturopathe Christian Limoges et elle sont dans la mire du Collège des médecins. Et c'est toujours la même question d'exercice illégal de la médecine, là, puis on se présente comme étant, disons, des opérateurs de médecine alternative. Et là, on dit également que, c'est l'enquêteur, là, que le naturopathe Limoges pratique l'irrigation du côlon, technique invasive qui présente un risque de préjudice et qui est un acte réservé à des médecins. Pas la première fois qu'on a des cas comme ça. Alors, puis là, les gestes posés et les propos également controversés. Elle prône un régime de détox basé sur les fruits et les légumes crus pour rendre le corps propre et alcalin et font la promotion de leurs produits, des produits homologués par Santé Canada, dit Jacinthe René. Fait que c'est tout le débat entre la médecine alternative puis les zones grises. Ce que tu as le droit de dire, de mettre en évidence. Puis là, souvent, malheureusement, il y en a qui dérapent, qui posent des gestes. T'sais, rappelons-nous, puis c'est pas le cas de Jacinthe René, là, mais les pratiques de sudation, voulez-vous qu'on revienne là-dessus? Là? Toi, les crackpots qui décident de s'investir dans les pouvoirs, puis qui posent des gestes comme ça, puis malheureusement, il y a des naïfs qui embarquent là-dedans, puis qui se font complètement charrier. Puis là, je sais, on va me dire, oui, mais il y a des gens qui meurent d'erreurs médicales. Oui, oui. Mais quand vous avez des gens qui n'ont aucune formation, qui se pense investi d'une mission, ben ça donne malheureusement des résultats néfastes pour bien des gens. 6h23 minutes. Allons voir ce qui se passe sur la 440.